Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, notre dernier rendez-vous de la semaine. Émission préparée par Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Céline Leclerc, Kieran Gessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Jean-Frédéric. Bon sang, mais c'est bien sûr ce qu'il faut à la France pour récupérer un peu de son éclat, c'est une nouvelle Tour Eiffel. Le projet d'organiser à Paris l'exposition universelle de 2025 gagne des adeptes. Un rapport parlementaire sur le sujet a été remis hier au président de l'Assemblée nationale. Pour un de ses auteurs, le socialiste Bruno Leroux, ce serait une exposition pour faire du bien à la France, un moyen de réconcilier la France avec elle-même. Car c'est bien connu, les Français doutent d'eux-mêmes, gagnés collectivement par la pathologie du déclin, l'intuition que leur pays n'est plus qu'une puissance moyenne qui pèse de moins en moins sur la scène internationale. Une puissance qui comptait autrefois parmi les plus grandes et qui ne serait plus aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. Organiser l'exposition universelle aurait donc pour effet de nous redonner le goût du rayonnement à l'international. Alors, si la France s'affaiblit, elle ne renonce pas pour autant, en tout cas officiellement, à l'idée d'être un acteur incontournable dans les affaires du monde. Son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, ses capacités militaires, son réseau diplomatique, son histoire, qui en fait le berceau de l'universalité des droits de l'homme, nombre d'éléments concourent à maintenir notre pays à un niveau de responsabilité à part. Mais le costume n'est-il pas un peu trop grand désormais? La France a-t-elle un rang à tenir? C'est notre sujet du jour. Et c'est une question à laquelle vont répondre nos invités du jour, à commencer par vous, Robert Franck, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des relations internationales. Vous publiez « La hantise du déclin, la France de 1914 à 2014 » aux éditions Belin. Je devrais dire vous republiez, puisque c'est une édition revue et augmentée. La première édition date de 1994, il y a donc tout juste 20 ans. Pour discuter avec vous ce soir, Delphine Lagrange, bonsoir.
Bonsoir.
Docteur en sciences politiques, enseignante à Sciences Po Paris, Rennes et Lille. Vous travaillez sur la politique étrangère de la France et les relations transatlantiques. Vous avez des livres qui ne sont pas encore parus, mais qui paraîtront l'an prochain, c'est ça? Deux ouvrages?
Exactement.
Qui traiteront de quoi?
De la politique étrangère de la France. L'un, précisément sur la crise irakienne, qui est issue de ma thèse, qui paraîtra aux presses de Sciences Po. Et l'autre, qui est un chapitre dans un ouvrage collectif chez Paul Brookings Institution Press, sur la politique étrangère de la France, généralement.
Alors, on suivra donc ces deux parutions.
Merci.
Notre troisième invité, Yves Rocotte, bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe, professeur des universités à la faculté de droit de Paris 10. Éloge du mode de vie à la française. C'était en 2012 aux éditions du Rocher. On peut le trouver par ailleurs chez un autre éditeur, c'est bien ça ?
Oui, je l'ai republié chez Contemporary Bookstore. Contemporary Bookstore où on peut l'avoir donc en numérique, moins cher d'ailleurs, et voilà, et un peu reformaté aussi.
Il y a un quatrième invité qui n'est pas vraiment un invité, mais qui va m'aider à vous poser des questions, c'est François Hernenwein. Bonsoir François.
Bonsoir.
Rédacteur en chef au journal La Croix, notre partenaire mensuel pour des émissions dans lesquelles on essaie de croiser des sujets qui alimentent les pages débats et idées de La Croix. C'est demain d'ailleurs.
Apparaître demain, oui, tout à fait.
Avec trois contributeurs qui réfléchissent à la place de la France dans le monde, en particulier à travers ses opérations extérieures.
Les interventions extérieures, effectivement. Il y a Dominique de Villepin, Jean-Pierre Chevènement et Pascal Boniface de l'IRIS.
Enfin, il n'est pas impossible que l'on reparle de ces trois personnes, soit à travers leurs contributions, soit à travers leur rôle, le rôle qu'ils ont pu jouer dans, justement, le rang de la France. Alors, quand on se pose la question du rang de la France, il faut peut-être essayer déjà de commencer par se demander quel est le classement, de la manière peut-être la plus objective, de la France aujourd'hui dans la hiérarchie mondiale, Robert Franck? Si on intègre l'ensemble des critères de la puissance, c'est-à-dire la puissance politique, diplomatique, économique et culturelle, je ne sais pas si j'ai fait le tour, mais enfin, en tout cas, il y a pas mal d'éléments, on peut dire que la France est la combientième puissance mondiale?
C'est un bon rang. C'est un bon rang si vous prenez déjà le critère économique, qui n'est pas négligeable. La France est au cinquième rang, hein, ce n'est pas négligeable. Parfois ex aequo, parfois devant le Royaume-Uni. En 1914, qui peut être le moment de l'apogée de la puissance française, la France est au quatrième rang. Hein. Donc c'est à peu près le même ordre de grandeur. Hein. Et derrière, cette fois, nettement le Royaume-Uni, l'Allemagne et les États-Unis.
Vous dites, bon, si on prend le critère économique, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est vraiment le critère qui domine pour essayer de classer les pays.
Déjà, c'est le critère le plus facile. Bon, voilà. Et c'est pas rien, l'économie, parce que c'est quand même les moyens, hein, les moyens de la puissance, il faut cela. Vous prenez le réseau culturel. La France a le deuxième réseau culturel du monde, hein, derrière l'américain. Hein. Bon, il connaît des problèmes, il coûte cher. Donc, effectivement, il y a des coupes budgétaires qui sont très, très, très dures. Ça montre, voilà, donc la France est un peu entre ces deux. Un rang qui est un peu entre ces deux chiffres, entre 2 et 4, hein, si on prend le critère culturel ou si on prend le critère économique. Mais ce qui est intéressant à voir, pourquoi y a-t-il hantise du déclin? Et quand j'emploie cette expression, dans l'expression hantise du déclin, le mot important, c'est évidemment le mot hantise. Parce que le déclin, qualitativement, oui, la France n'est plus une grande puissance. Le Royaume-Uni non plus. Même l'Allemagne.
Sauf que nous, on ne le vit pas de la même manière. Alors, n'allons pas trop vite en besogne, peut-être, hein, Robert Franck, parce qu'on va parler de cette hantise du déclin. Je voudrais poursuivre mon tour de table. Alors, Delphine Lagrange, entre 2 et 4, 2e et 4e puissance mondiale, 5e, c'est comme ça que ça se joue aujourd'hui? Ou bien est-ce que la notion même de classement, peut-être, est totalement obsolète parce que la notion de puissance a complètement été modifiée à travers notamment la mondialisation?
Ben oui, je suis tentée effectivement de contester la question pour commencer, c'est-à-dire que il est difficile d'établir un classement, même sur des critères économiques, c'est sur le PIB, mais si on compte d'autres données, ça va changer les chiffres, alors on prend un peu ce qui nous arrange, il faut être honnête. Bon, si on regarde en termes de dette, ça sera autre chose, et puis est-ce que la dette c'est quantitatif ou qualitatif, vous voyez qu'on rentre dans un débat de chiffres, ne serait-ce que dans le domaine économique qui est infernal. Bon. Donc la question demeure, c'est-à-dire que quand bien même on ne peut pas faire un classement qui serait valable une fois pour toutes et qui serait objectif. Évidemment, la question de quelle est la place, quel rôle elle peut tenir, cette fameuse France, eh bien, c'est la question effectivement du rang. Mais là, pour y répondre, on est obligé de mêler des ressources. Donc, vous l'avez mentionné, le siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, par exemple, mais c'est un gros privilège, donc ça compte beaucoup. Une histoire particulière, je pense qu'on va y revenir souvent. Des perceptions, des auto-perceptions et l'idée que la France a un rôle particulier à jouer, je pense que ça c'est un élément central dans la réflexion sur le rang. Et enfin, un système international. On a aujourd'hui des opportunités, je pense en tout cas, des opportunités pour la France pour proposer une politique étrangère autonome parce qu'il n'y a plus le système bipolaire qui contraignait la France dans une alliance.
La question du rang de la France, elle se pose, Yves Roucaute, et on vous la pose. C'est-à-dire en préparant l'émission, vous nous avez dit que c'est une question que vous posez très souvent vos étudiants. Vous nous avez même dit que vous avez dû adapter votre cours pour tenter d'y répondre.
Oui, parce qu'en fait, je pense qu'il y a une vraie interrogation en France sur le rôle, la place de la France. Donc c'est une question qui me paraît tout à fait légitime. Bon, je ne sais pas si c'est une question de classement, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je crois qu'on peut toujours mettre en place des systèmes plus ou moins qui permettent de dire en tout cas que c'est, je crois, une grande puissance. Là, c'est une petite différence avec mon collègue historien, mais je crois que sur le fond, on est assez d'accord. Moi, je crois que c'est une très grande puissance pour des raisons objectives, mesurables.
Vous parlez de la France de 2014.
Je parle de la France d'aujourd'hui. C'est une grande puissance pour des raisons objectives. Si vous voulez, pour moi, la France, c'est comme une belle voiture, vous voyez, superbe voiture, qui aurait un moteur de Formule 1, qui aurait tout ce qu'il faut pour la Formule 1, et puis auquel on mettrait une coque qui serait une coque de vieille deux chevaux. Moi, j'aime bien les deux chevaux, j'ai une nostalgie des deux chevaux, avec des pneus usés qui ne permettraient pas de rouler. Donc, on est un peu dans cette situation-là. Je crois que, globalement, si on regarde de manière objective les choses, la France, c'est une grande puissance économique. Mon collègue l'a indiqué tout à l'heure, et je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est une grande puissance militaire. Je veux dire, il ne faut quand même pas oublier qu'en termes militaires, on est probablement la troisième puissance du monde. C'est donc une force de frappe fantastique. C'est une puissance géopolitique absolument incommensurable. Il faut savoir quand même que nous sommes la deuxième surface économique du monde de souveraineté. Nous avons 11 millions, maintenant 12 millions de kilomètres carrés depuis 84, les calculs de 84. Nous sommes présents sur tous les océans. Nous avons cette force fantastique qui fait que nous avons cette position-là au Conseil de sécurité. Nous avons donc une position aussi centrale en Afrique de l'Ouest, si vous voulez, en Afrique. Bon, on est une grande puissance indéniable. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce moteur incroyable que l'histoire nous a donné, que la situation géopolitique nous donne, qu'est-ce qu'on en fait de ce moteur?
Robert Franck, votre livre démarre par cette double phrase. Il y a 100 ans, en 1914, la France était une grande puissance. Ce statut était alors incontestable. Vous expliquez ensuite, par la suite, que ce statut a été contesté, que la France est plutôt une puissance moyenne. Est-ce que Yves Roucotte fait de l'auto-persuasion quand il essaie de se convaincre, enfin, et de nous convaincre surtout, que la France est une très grande puissance aujourd'hui encore ?
C'est pas facile, parce que je suis assez d'accord avec la plupart des phrases dites par Yves Roucotte. Hein. On peut discuter à l'infini sur la notion de grande puissance. Voilà, là, il y a un désaccord, mais il y a un peu un désaccord sémantique, si vous voulez. Donc, c'est pas très grave, mais en deux mots, si vous voulez. C'est vrai qu'une grande puissance, c'est quand même une puissance qui est capable de défendre quasiment elle seule face aux autres, pour reprendre une définition de Clausewitz, sa sécurité, disait-il, on dirait aujourd'hui son indépendance.
C'est un État qui a les moyens, voilà, la volonté de faire prévaloir auprès de n'importe quelle autre puissance, dans de nombreux domaines et de façon durable, ses intérêts et ses conceptions. Je cite Robert Franck. Voilà.
Donc c'est vrai qu'elle peut faire ça, mais pas toute seule. Alors, une grande puissance peut faire ça toute seule. Ça, on ne peut pas. Hein, on peut pas. La Chine peut faire ça. Les États-Unis, bien entendu, etc., etc. Donc, nous ne sommes pas une grande puissance, nous ne sommes plus une grande puissance, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que nous restons une belle voiture, si j'ose dire. Parce que nous avons beaucoup de moyens, parce que nous avons une image à défendre. Et vous avez raison de dire que la puissance est aussi une question d'auto-perception. C'est aussi la question de la perception des autres. Non, nous ne sommes qu'une puissance moyenne, mais nous avons une particularité. Nous sommes une puissance moyenne à vocation mondiale. Et ça, c'est pas donné à toutes les puissances moyennes. Le Royaume-Uni est peut-être, avec la France, la seule autre puissance moyenne à vocation mondiale. L'Allemagne est une plus grande puissance que nous, d'une certaine manière, mais elle est une puissance à vocation européenne seulement, pour toutes sortes de raisons qu'on peut expliquer de l'histoire. Donc c'est pas mal, je veux dire, une puissance moyenne à vocation mondiale. Et là, le paradoxe, la Chine, bon, est une grande puissance, le Brésil est en train de devenir une grande puissance, il peut défendre son indépendance tout seul, mais c'est vrai que la vocation mondiale du Brésil sera moindre que la vocation mondiale de la France. Donc, vous voyez, je crois que c'est la question du rang est liée à ça. Peut-être qu'on a un problème avec le mot rang, si vous voulez, parce que si c'est un problème de classement, vous l'avez raison, on a du mal à trouver un classement précis. Et bon, alors, il est beau ce mot, parce que c'est De Gaulle qui l'a mis en avant, hein, le rang de la France. Il a un inconvénient aussi, hein, du point de vue de notre image. Mais dans aucun autre pays, on se pose la question du rang. Il n'y a qu'en France. Hein. C'est un problème français, ça. Hein. Et les autres pourraient dire, mais pour qui ils se prennent, ces Français, pour parler toujours du rang, etc. etc. La question, c'est savoir quelle influence on a dans le monde. Or, si c'est le rang pour le rang, et pour faire n'importe quoi, ça ne marche pas. En revanche, la question, est-ce qu'on doit avoir et encore une influence dans le monde ? Oui, là, c'est une question importante, et je crois que la réponse, enfin, de ma part, serait plutôt oui, on pourra développer tout à l'heure.
Il y a une forme d'arrogance, Delphine Lagrange, dans la façon dont la France se perçoit dans le monde, qui ne correspond peut-être pas complètement au poids réel qui est le sien.
Il y a un décalage, effectivement, entre à la fois l'auto-perception, cette idée de patrie des droits de l'homme qui fonde l'exceptionnalisme, c'est-à-dire une politique...
Qui n'est pas une idée fausse, si ?
C'est difficile de s'autoproclamer très sérieusement patrie des droits de l'homme, quel que soit l'État. C'est-à-dire, oui, il y a une culture philosophique, il y a une culture politique, mais de là à se placer comme finalement le modèle en matière de droits de l'homme, c'est prêter aussi la critique aux autres. Nous ne sommes pas les seuls dans ce cas. Regardons par exemple le rapport annuel d'Amnesty International. Tous les États y sont, y compris la France. Bon, pour ses prisons, pour ce traitement des immigrés, par exemple. Donc, voilà, patrie des droits de l'homme, le problème, c'est qu'effectivement, c'est prêter le flanc à la critique. Et puis, il y a aussi, effectivement, ce positionnement. Alors, on a évoqué le multilatéralisme. Je crois que c'est une grande question, la place de la France dans les organisations internationales. Dans quelle mesure elle joue la coopération dans ces enceintes ? Dans quelle mesure elle joue la distinction ? Et c'est là aussi qu'il peut y avoir, derrière, des réactions de rejet, des réactions, finalement, critiques vis-à-vis du positionnement français lorsque le multilatéralisme n'est pas joué pleinement dans son esprit.
Ça a été évoqué à l'instant. Il y a une forme d'arrogance française, incontestablement, sur la scène internationale. Et même dans ses relations avec ses voisins européens, il était courant en Allemagne de moquer la grande nation, c'est-à-dire la nation qui se croit plus grande qu'elle n'est, plus importante qu'elle n'est. Et l'histoire récente, la compétition économique, a montré que la puissance politique que traditionnellement on attribuait à la France dans le concert européen, elle a commencé à le perdre à cause du dynamisme économique allemand, et qu'aujourd'hui, quand on parle de la puissance française, je pense qu'aussi on y réfléchit, il faut essayer de l'inscrire aussi dans le projet européen global.
Bien sûr.
La France n'a pas d'horizon mondial comme ça, elle toute seule aujourd'hui.
Yves Rocotte, est-ce que la France ne vit pas un peu trop sur une pratique qui appartient au passé, c'est-à-dire une diplomatie flamboyante avec les diplomates écrivains?
Je sens que je vais choquer. Moi, je pense que...
Est-ce qu'on n'a pas loupé un peu le coche de la diplomatie économique, c'est-à-dire qui permet aujourd'hui effectivement à des pays comme l'Allemagne de peser peut-être davantage que nous ne pesons?
Enfin, je crois que je vais choquer un peu. J'en suis vraiment désolé. Je n'aime pas trop ça. C'est pas... Mais la vérité, c'est que je pense que c'est presque le contraire. Je pense que la France, justement, est dans une position de médire d'elle-même de manière assez dramatique, je trouve, même de manière assez incroyable. Ce qui me frappe, si vous voulez, moi, dans tous mes voyages, je voulais, par exemple, aux États-Unis, les Américains sont persuadés d'être la première puissance du monde. C'est quelque chose qui leur paraît naturel. Je vais en Chine, les Chinois sont persuadés d'être la prochaine puissance numéro un dans le monde. Je suis au Japon, les Japonais sont persuadés d'être la grande puissance. Donc, j'ai des amis colombiens avec lesquels je travaille beaucoup dans le cadre de l'ONU, pour des raisons humanitaires. Ils me disent, mais pourquoi vous ne faites pas de salut au drapeau dans vos écoles? Pourquoi vous ne faites pas ça? Ils ne comprennent pas. Je veux dire, il y a un côté français où on a peur de dire ce qu'on est. On est une grande puissance. Et on est une grande puissance non seulement économique, industrielle, etc., mais on est une grande puissance financière. Enfin, écoutez, sur les 10 premières multinationales de la finance, il y a trois sociétés françaises. Société Générale, Crédit Agricole, BNP Paribas. Je veux dire, on est, je pourrais comme ça égrener comme ça nos multinationales dans le monde et notre puissance dans le monde. Je veux dire, il faut arrêter, je crois, je continue à dire que c'est un énorme moteur. On a le moteur de Formule 1 qui est absolument fantastique. Et quand on parle de la patrie et des droits de l'homme, je suis encore choqué. Oui, bien entendu, oui. Je veux dire, c'est le Moyen-Âge chrétien français qui a produit cet universalisme qui a été développé dans le monde entier avec nos grandes facultés. Bien sûr, il y a la faculté de Bologne, mais il y a la faculté de Paris et tout. Il y a cet incroyable univers culturel du Moyen-Âge qui a ensemencé par la Renaissance jusqu'aujourd'hui le peuple du monde entier. Nous avons inventé la première nation civique du monde. Tout le monde avait le sentiment qu'il fallait vivre dans une nation ethnique, que je suis allemand parce que je suis né allemand, parce que j'ai les ancêtres allemands.
Est-ce qu'on n'est pas un peu prisonnier justement aujourd'hui de cet histoire et de cet universalisme?
On a donné au monde des modèles modèles. Alors après, je suis d'accord, on peut toujours avoir ce que Hegel appelait le point de vue du valet de chambre. C'est-à-dire, on va dire, regardez, il y a des atteintes. Je trouve ça normal d'ailleurs. Regardez des atteintes aux droits de l'homme en France, regardez, etc. Je trouve ça normal qu'on fasse ce travail-là. Mais le fond de l'affaire, c'est que nous sommes un peuple incroyablement généreux, ouvert. Et je trouve que c'est incroyable d'avoir l'élite politique que nous avons, je veux dire, par rapport à cette puissance de feu, je veux dire, intellectuelle. Simplement un mot, première puissance en termes de théâtre, première puissance par habitant en termes de cinéma, première puissance en termes de monuments historiques, première puissance mondiale en termes de musées. On a fait la FIAC là dernièrement, on a une ville de Paris, 26 millions de visiteurs, la deuxième c'est Venise, 20 millions, troisième c'est Londres, 14 millions, 16 millions, 10 millions de moins par an. Je veux dire, arrêtons, je veux dire, on a un moteur fantastique.
Il ne manque plus que vive la France pour terminer.
Mais moi, je suis très gaulliste, si vous voulez, ça ne me dérange pas de dire vive la France.
Bon, je ne sais pas si Delphine Lagrange et Robert Franck ont été choqués par ce que vous dites. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de choquant. Par contre, il y a peut-être des divergences de point de vue. En fait, dans ce que dit Yves Rocotte, Robert Franck, il y a aussi l'idée qu'il faut peut-être, même si on n'est pas la première puissance mondiale, il faut peut-être faire comme si, en tout cas, manifester une volonté politique qui, elle aussi, participe finalement de la puissance. Est-ce que ce n'est pas la volonté politique aujourd'hui de peser qui manque à la France?
Non, je dirais l'inverse. Je crois que c'est une tendance longue dans la politique étrangère française, c'est justement cette volonté politique. Justement, parce que la France a peur de son déclin, elle investit beaucoup dans l'influence qu'elle a dans le monde, pour bien montrer que... Voilà. Donc, là où je suis d'accord avec Yves Rocotte, c'est que la France n'a pas à avoir peur de ce déclin, ou du moins, peut-être, elle doit avoir peur de ce déclin pour précisément ne pas y tomber. Mais objectivement, il n'y a pas véritablement déclin de la France, et bon, Yves Rocotte a montré effectivement pas mal de performances. Là où je ne serais pas d'accord, c'est sur la question de l'image, si vous voulez. C'est vrai que les Français n'ont pas assez confiance en eux-mêmes et ont tendance à se médire. Je trouve que c'est bien d'ailleurs. Oui, l'esprit critique, ça fait longtemps, hein, je veux dire, ça fait partie de l'esprit critique français, je c'est très bien. Mais en même temps, les mêmes Français pourront se montrer peut-être arrogants. Je veux dire, entre le fait d'être arrogant et le fait de se critiquer soi-même, c'est ambivalent. Il y a une ambivalence fondamentale, peut-être dans le génie français, je ne sais pas. Donc voilà, donc de ce point de vue, effectivement, l'influence dans le monde est certainement un des critères par lequel la France veut montrer qu'elle continue toujours et qu'elle est bien là, bien présente.
Delphine Lagrange.
Je vais revenir aux définitions. De même que le rang, ça renvoie à des classements qui nous posaient des problèmes parce que c'est trop rigide. Et là, on a un problème avec France. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle des musées? Est-ce qu'on parle des firmes multinationales? Auquel cas, la France, là, c'est une nation parmi d'autres. Est-ce que l'on parle des décideurs politiques? Est-ce que l'on parle des Français? Alors là, il faut encore introduire une complexité parce que ce n'est pas un tout. Donc, vous voyez que la France, finalement, c'est aussi une façon de poser cette idée d'une grande nation, encore une fois, qu'il faudrait un petit peu détailler. Rentrer un peu dans la complexité pour voir alors davantage peut-être le domaine politique, c'est la question que vous posiez, peut-être distinctement des autres entrées, parce qu'il est impossible de répondre à cette question globalement sur voilà, la France en général.
Alors on va aller justement sur cette question politique, mais peut-être qu'on a tort finalement depuis le début, enfin c'est ma faute, hein, d'essayer de ranger la France dans un classement disons vertical. Peut-être que la France se situe un peu à côté. Je voudrais vous faire écouter un extrait d'un discours que vous allez immédiatement reconnaître. Nous sommes à l'ONU le 14 février 2003.
Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Et c'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, qui vous le dit aujourd'hui, qui a connu les guerres, l'occupation, la barbarie, un pays qui n'oublie pas et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique et d'ailleurs, et qui pourtant n'a cessé de se tenir debout face à l'histoire et devant les hommes.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
La France a-t-elle un rang à tenir? C'est la question qu'on se pose ce soir en partenariat avec le journal La Croix, représenté ce soir par François Hernenwein, Robert Franck, Yves Roucotte et Delphine Lagrange. Une réaction, non pas une réaction directe, Delphine Lagrange, à ce discours, on l'aura reconnu, de Dominique de Villepin. Il s'agissait à l'époque de convaincre, d'essayer de convaincre les États-Unis de ne pas intervenir militairement en Irak. Mais dans ce que dit Dominique de Villepin, il y a l'idée que la France est peut-être une puissance à part et que donc la diplomatie qu'elle mène ne peut pas être de toute manière une diplomatie comme les autres, du fait justement notamment de son histoire. Est-ce que c'est ça qui guide encore aujourd'hui la diplomatie et la politique étrangère française ?
Eh bien, je vais devoir encore jouer trouble-fête, c'est-à-dire que ce discours, alors en même temps, le fait que 11 ans après, on en revienne toujours au discours de Dominique de Villepin à l'ONU, c'est aussi significatif. C'est-à-dire, c'est le grand discours de l'après-bipolarité et on en est un peu resté là. Alors, ce discours, il n'avait pas vocation à convaincre les États-Unis, puisque le 14 février, les États-Unis avaient décidé de longue date d'intervenir. Il avait justement vocation à s'adresser au monde entier. Et ça, effectivement, c'est très révélateur de cette propension à se poser comme un modèle. Alors, effectivement, en jouant une diplomatie distinctive sur le cas irakien, mais à nuancer. C'est pour ça que je vous parlais de trouble-fête, c'est-à-dire que dans ce cas très précis, la diplomatie française, c'était peut-être pas ce qu'on a retenu, mais a été très longtemps hésitante. C'est-à-dire que Jacques Chirac était prêt à intervenir aux côtés des États-Unis jusqu'à très tard, et a été surtout très rapidement vers la coopération de nouveau. Je voudrais simplement signaler la résolution 1483. Elle est fondamentale. Pourquoi ? Parce que deux mois après l'entrée en guerre, la France votait au Conseil de sécurité la légitimation a posteriori de l'intervention en Irak. Et ça, nous l'avons un petit peu oublié parce que ce beau discours, finalement, nous a fait un peu occulter ce qui était d'abord un moment de recherche de coopération avec les États-Unis, plus qu'une crise.
Donc il ne faudrait pas davantage parler peut-être d'ambiguïté de la politique étrangère française, qui ne sait pas très bien quelle ligne suivre, plutôt qu'une ligne fixe qui existerait depuis, alors pour parler de l'époque récente, depuis le général de Gaulle.
Oui, je pense. Alors il y a un référent gaulliste qui s'inscrit dans la continuité, c'est incontestable, mais il y a pas pour autant une politique étrangère continue, toujours cohérente. Mmh. C'est impossible, quel que soit le pays, mais c'est vrai que là, dans le cas français, c'est loin d'être le cas.
Les intervenants dans le Forum de la Croix, Jean-Pierre Chevènement, etc., Pascal Boniface et Dominique de Villepin, soulignent le flou de la politique extérieure française aujourd'hui. Oui. Son absence de lisibilité, son absence de clarté, ils insistent c'est beaucoup clair. Là-dessus. Oui. Et ils reprochent clair. En gros à François Hollande ses ambiguïtés.
Robert
et
Franck.
On l'a vu sur le dossier ukrainien, on ne peut pas dire que la France et l'Europe aient eu une ligne d'une lisibilité formidable.
Robert Franck et ensuite Yves Rocotte.
Je crois que chaque dossier a sa particularité et n'a pas la même difficulté ou la même facilité pour sa gestion. Il y a peut-être plus de continuité qu'on le croit. Dans ce discours de Villepin, il s'adresse au monde, c'est la France qui s'adresse au monde, mais aussi il parle du vieux continent. Et c'est vrai que donc derrière le vieux continent, il y a l'Europe. Et que l'Europe n'a pas tout à fait la même conception que l'Amérique. Le point commun, c'est que souvent dans les interventions, c'est de lutter contre le mal. Mais l'Amérique le fait au nom du bien. Les Européens sont plus sceptiques. Ils ne croient pas incarner le bien. Bon, contre le mal, oui, mais nous ne sommes pas forcément le bien pour autant. La démocratie, c'est beau. Mais Churchill, qu'est-ce qu'il dit ? La démocratie, c'est le pire des régimes, à l'exclusion de tous les autres. Ça, c'est très européen comme formulation.
Donc, si vous voulez... c'est dommage dans ce cas qu'il n'y ait pas vraiment de diplomatie européenne.
Voilà. Oui, voilà. Et ça c'est le gros problème. Pour revenir, si vous voulez, à l'Irak, je veux dire, ça montre bien que toutes les interventions ne se ressemblent pas. Et si la France a une spécificité dans ce cas, c'est qu'effectivement, l'intervention de 2003 a eu une conséquence positive, la chute de Saddam Hussein, mais des conséquences négatives tellement énormes que qu'on les paye encore. Et ça n'a rien à voir avec l'intervention de 1980. Et c'est ça que je crois que la France voulait montrer, qu'on n'était pas dans les mêmes conditions que la première intervention de Bush père. Et voilà, donc il faut voir cas par cas. Et alors la politique actuelle de la France est peut-être floue, mais les situations sont beaucoup plus complexes.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien. Par moment, on a l'impression que c'est une politique qui suit ce que font les États-Unis, donc une politique très atlantiste. Et puis, à d'autres moments, quand par exemple François Hollande décide de reconnaître officiellement l'opposition syrienne avant tout le monde, quand la France décide d'intervenir au Mali, on a plutôt l'impression que c'est la France qui veut à tout prix être la première, quitte à se retrouver assez isolée sur la scène internationale.
Oui, mais pourquoi être systématiquement aligné aux États-Unis et pourquoi être systématiquement contre les États-Unis ? Là aussi, c'est cas par cas. Là, je crois qu'il vient de se passer quelque chose au Mali. Hein, et c'est dans notre sujet. Hein. Un soldat français vient de mourir. Hein, donc voilà. Est-ce que tenir le rang, ça vaut la peine de voir un Français mourir ? Voilà. Hein, bon. Les Français ont donné la réponse. Hein, c'est un drame humain, un drame familial, c'est un énorme drame. Les Français montrent leur compassion, mais en fait, ils ne se révoltent pas contre cela. Donc, je veux dire, c'est dans l'histoire de nos gènes, si vous voulez, ça s'est construit, que cette vocation, il y a des risques. Or, la question du Mali est importante, la France intervient seule, grâce à la logistique américaine. Donc, il y a une coopération, je veux dire, il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire sans le renseignement américain. Bon, et donc, c'est la question de l'Europe. C'est qu'effectivement, la France est un peu isolée dans l'Europe, parce qu'elle a une certaine conception de l'Europe puissance, elle ne dit plus trop le mot, parce que ça fait peur aux uns et aux autres. Et c'est vrai que beaucoup d'Européens n'ont pas cette même conception. Et de ce point de vue, la France est isolée. Et ça, c'est peut-être le drame, c'est que la France ne peut pas aller faire les choses seule et l'Europe ne suit pas toujours.
Et à ce sujet, j'ai peut-être une suggestion à faire à Yves Rocotte. Et si la France laissait son poste de représentant permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour l'attribuer à l'Union européenne ? Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée, ça ?
Je vais faire un jeu de mots. Je veux dire, c'est plus qu'une erreur, ce serait un crime. Je veux dire, ce serait un crime. Non, je crois qu'il faut reprendre les choses de manière un peu basique, quoi. Je veux dire, c'est la France a un rôle à jouer qui lui est propre, qui tient son histoire, justement, qui est un peu exceptionnel. Je veux dire, c'est pas... Je serais japonais, je dirais la même chose. D'ailleurs, mes amis japonais, avec lesquels je travaille beaucoup, puisque j'enseigne aussi au Japon, disent la même chose, si vous voulez. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'exceptionnalité française et qui se voit parfois, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le problème, c'est un peu le conducteur du véhicule, quand même, parce qu'on va reprendre Sarkozy. Il y a plein de défauts, Sarkozy, hein, je suis tout à fait d'accord. Mais
on n'en a rien dit, nous.
Je suis d'accord pour dire qu'il a plein de défauts, moi. Mais il y a une chose qui est caractéristique, c'est quand même, regardez, dans cette crise financière incroyable, mondiale, qu'il y a eu, on a vu d'un seul coup la petite voiture française, qui, pour ça je continue à penser que c'est une énorme voiture, qui est arrivée. C'est quand même la France qui, à un moment donné, a joué le rôle en pole position face à cette crise, y compris Obama, qui a suivi la France, et Merkel, qui a suivi la France au moment de cette grande crise financière. Donc on est capable, en réalité, quand on a un conducteur qui sait où il va, on pense à De Gaulle, vous parliez de De Gaulle tout à l'heure, bien sûr, moi aussi j'y pense à De Gaulle tout le temps, parce que, en tout cas, quand je pense au rôle de la France, pour une raison simple, parce que justement, et je reviens là sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, cher collègue historien, je reviens sur ce que vous avez dit, parce que je suis assez d'accord avec vous, la France, elle a pas se mettre à la remorque des États-Unis. C'est un partenaire, on l'a bien vu, parce que c'est pas la première fois que la France elle a besoin des États-Unis. En 14-18, s'ils n'avaient pas été là, on n'aurait peut-être pas gagné. En 39-45, c'est évident qu'on n'aurait pas gagné. Donc, si vous voulez, il est évident qu'on a des relations avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est 740 milliards
740 milliards de dollars de budget militaire. C'est énorme. Nous, c'est 60 environ, on en a une soixantaine. Il faut quand même faut voir les choses en relativement, je veux dire. Donc, c'est évident que c'est bien qu'on soit allié avec eux. Mais ce n'est pas parce que ce sont nos alliés que pour autant on doit se plier à ce qu'ils veulent. D'autant qu'on voit Obama. Obama, franchement, il est un peu perdu dans les relations internationales aujourd'hui. On le voit bien. Nous-mêmes, on a quand même un gros problème en France aujourd'hui avec François Hollande. Moi, je ne critique pas François Hollande surtout. Mais sur cette question des interventions en ce moment, je veux dire, tout ça est un peu confus. Alors, est-ce que c'est la faute à Bernard Lévy? Est-ce que c'est la faute à Paul, Pierre ou Jacques? J'en sais rien. Mais tout ça est un peu confus. Je veux dire, la question des Touaregs qu'on n'a pas réglée, je veux dire, on ne va pas la régler par la violence, la question des Touaregs. Ils demandent la possibilité de vivre de manière autonome, voire indépendante. Écoutons-les. La question de l'Ukraine. Il y a une population qui nous dit en Crimée, moi, je ne veux pas vivre avec les Ukrainiens. Les Écossais, ils ont le droit d'aller voter pour dire si oui ou non ils veulent vivre avec les Anglais. On dit aux gars de Crimée, vous n'avez pas le droit à vous. C'est pas sérieux.
Il n'y a pas que la France qui leur dit ça.
Dans la grande tradition française, on n'a pas à suivre les États-Unis. On a à suivre nos valeurs. On a à suivre le fait que les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Ça, c'est une grande valeur gaulliste. C'est une valeur que Jean-Paul II, d'ailleurs, a défendue, etc. Moi, je pense qu'il faut tenir le cap. Il faut arrêter ces confusions, si vous voulez.
Delphine Lagrange, est-ce qu'on pourrait dire que finalement le rang de la France dépend de la volonté politique de ceux qui la dirigent?
Oui, alors ça dépend des ressources.
Est-ce que ça suffit?
Des ressources, évidemment. Il faut un minimum de ressources, mais on l'a vu amplement, la France n'en manque pas.
Et enfin, la France n'en manque pas. Les ressources, par exemple, militaires, le budget stagne au minimum. Il y a quand même d'énormes efforts qui sont demandés. Le budget du ministère des Affaires étrangères, là aussi, il y a un certain nombre d'instituts qui sont en difficulté financière. Est-ce que ça ne va pas finir par se voir à un moment donné?
Oui, alors ça pose des problèmes. Les ressources ne sont pas illimitées, mais on voit actuellement que la Suède, qui a d'autres ressources, arrive à les faire jouer en se mettant à la une de l'actualité internationale en reconnaissant l'État palestinien. On voit que Cuba envoie des médecins, chacun fait avec ses ressources. La France a quand même pas mal de ressources.
Bon.
Et puis après, bah oui, mais si vous voulez, c'est ça aussi exister sur la scène internationale.
Il y a surtout la police Cuba sur les dissidents à Cuba. Hein.
Oui,
surtout que la police est triste.
L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que là, on parle de politique étrangère.
En fait, ils font semblant d'aider, mais en fait, c'est pour fomenter des troubles.
C'est pas le sujet. C'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que peu importe, ils affichent une politique étrangère qui est finalement qui propose des choses. Donc vous n'avez pas besoin d'énormément de ressources. C'est vrai qu'il y a des contraintes. Et donc la question, c'est quelle volonté politique justement pour répondre dans ces contraintes et peut-être pour les limiter. Parce que réduire le budget des ambassades, réduire toute une série de budgets finalement, c'est aussi un manque, enfin la trace, le résultat d'un manque de volonté politique de continuer à maintenir ce réseau. Deuxième ou troisième réseau diplomatique après la Chine, c'est aussi, là aussi, un signe de cette volonté politique qui est fluctuante et peut-être à la baisse.
Bon, mais donc, ça dépend des dossiers. Donc ce que vous dites, Delphine Lagrange, c'est que finalement, plutôt que de vouloir exister de manière universelle et globale, si on choisit des dossiers bien ciblés, on aura exactement, évidemment, le même effet, les
mêmes
bénéfices.
Alors, ce n'est pas exactement ça. Ce que je dis, c'est que la diplomatie, finalement, c'est beaucoup de discours, c'est beaucoup d'actes symboliques et ça ne coûte pas grand-chose. Et que donc, là-dessus, la France a une carte à jouer globalement, justement parce qu'elle peut profiter de son existence dans des organisations internationales, ce qui lui donne, alors ce qui est coûteux aussi d'ailleurs, mais ce qui lui donne accès à un discours qui s'adresse à tous. Et donc, dans cette mesure-là, si vous voulez, vous pouvez déployer une diplomatie qui soit autonome des États-Unis quand c'est pertinent, avec les États-Unis quand c'est argumenté. Tout dépend, effectivement, mais il ne s'agit pas forcément de se recentrer sur certains dossiers précis.
On est d'accord pour dire qu'elle en use largement. De la parole.
Mais ça dépend pour dire quoi. La particularité de la France, en tout
en
cas...
En insistant sur le rôle de l'ONU, etc.
Il ne s'agit pas seulement de le dire, il faut le faire aussi. Au moment de la crise irakienne, la France, elle est toute seule en Côte d'Ivoire. Bon. Donc, vous voyez, et l'ONU a multilatéralisé l'opération après. Donc, bon, il faut voir quel est le rapport à l'ONU qu'on invoque à tout bout de champ. Je disais plutôt que la diplomatie française, elle peut se distinguer en parlant à tous. C'est ça qui fait sa différence, sa distinction, sa capacité et sa volonté de parler à tous, mais peut-être moins en ce moment.
François Hollande, lors de la conférence des ambassadeurs à l'Élysée, non pas en août dernier, mais en août 2013, a eu cette phrase qui me semble très intéressante. La France se veut une puissance repère, c'est-à-dire une nation qui s'exprime au-delà de ses seuls intérêts. Une puissance repère, est-ce que, finalement, puisqu'on est aussi dans un effort de définition ce soir, Robert Franck, est-ce que c'est une définition qui pourrait convenir, finalement ?
Ça peut convenir à la France, peut-être la France n'est pas la seule à mériter cette définition, mais ça convient effectivement à la France, c'est-à-dire de donner un sens à ces messages, et c'est vrai qu'elle sait le faire. Et là, on est dans le symbolique, effectivement, et la France doit tenir cette position symbolique. Vous posez la question de savoir, est-ce que la France doit renoncer à son poste de siège permanent à l'ONU et le céder à l'Union européenne?
Peut-être qu'elle s'en porterait mieux.
Non, moi, j'ai une réponse double. Pour l'instant, pas question. Pour une raison très simple, il n'y a pas de politique extérieure et de sécurité commune. Elle est inscrite au traité de Maastricht, mais c'est une coquille qui n'est pas tout à fait vide, mais qui est grandement vide. Donc, tant que cette coquille reste vide, je ne vois pas pourquoi l'Union européenne aurait... Donc là, il vaut mieux, tant pis, c'est la France, c'est le Royaume-Uni, c'est un héritage de 45, ce n'est pas l'image du rapport des forces aujourd'hui, il n'y a pas le Brésil, il n'y a pas l'Inde, bon, c'est comme ça. C'est
bon, j'ai une autre idée, alors, Robert Franck, on partage à mi-temps avec l'Allemagne.
En revanche, que ça arrive un jour... Effectivement, lorsque l'Union européenne aura cela, là, l'Union européenne aura une fantastique puissance. D'un certain point de vue, nous ferons partie de la première puissance du monde. Et bon, on n'en est pas encore là. Pour répondre donc à Yves Roucaud, c'est qu'il faut effectivement garder en tête certaines leçons du général de Gaulle. Mais je dirais, il faut sortir du cadre gaullien. Je veux dire, si on reste enchaîné dans ce cadre gaullien, on n'est pas assez, dans le cadre multilatéral, il s'en méfie un peu, on n'est pas suffisamment dans le cadre européen. Bon, là, il a peut-être raison, parce que précisément, la politique extérieure, la sécurité commune manque, mais c'est vrai que la vocation de la France, c'est de faire en sorte que cette politique extérieure commune européenne soit construite. Et c'est là, peut-être, que nos dirigeants pourraient avoir une volonté politique. C'est avec qui s'allier au sein de l'UE pour arriver à cela. Et là, pourquoi pas le Royaume-Uni, avec lequel on est en désaccord sur beaucoup de choses, peut-être pas là-dessus. Pourquoi pas l'Espagne? Pourquoi pas l'Italie? C'est vrai que la Suède a une autre vocation. Je veux dire, bon, la Suède, sur certains points, oui, et sur certains points, elle dirait, sûr. Mais le mieux-être est mieux. Enfin, une Europe, disons, mieux-être, et une Europe bonheur est mieux qu'une Europe puissance. Voilà, là, il y a un débat. Mais je crois qu'on peut trouver des alliés avec lesquels on peut effectivement avoir une véritable politique.
Mais le point de clarification sur ce chapitre-là, la politique européenne et la place et le rôle de la France, sera aussi la clarification des relations avec les États-Unis. Est-ce que l'Europe a la volonté de construire une politique extérieure commune qui ne soit pas le calque de celle des États-Unis?
Il faut cesser peut-être d'être obsédé par les États-Unis. Je veux dire, les États-Unis existent, c'est un grand pays qui a aussi une vocation, qui est une grande puissance repère. Hein, voilà. C'est aussi la patrie des droits de l'homme. Hein. 1787, c'était avant 1789. Hein. La constitution de 89, etc., etc. Bon, certes, en s'inspirant d'idées françaises. Donc voilà, il y a tout un complexe atlantique. Donc, je veux dire, si l'Europe se fait, elle discutera avec les États-Unis. Je veux dire, avec des valeurs communes et avec des différences, parce qu'il y a aussi des différences.
Est-ce qu'il ne va pas falloir, Delphine Lagrange, que la France fasse une sorte d'aggiornamento de ce qu'est sa puissance aujourd'hui et accepte peut-être de se départir de certains des attributs de sa puissance pour en conserver d'autres? Est-ce que ça, c'est nécessaire? Par exemple, si on dit qu'il faut fondre la politique étrangère française dans une politique européenne, il faudra bien que la France accepte de lâcher un petit peu de l'Est.
Bah, fondre, pas nécessairement, mais au moins agir en complémentarité. C'est-à-dire au Conseil de sécurité, par exemple, la France aurait pu impliquer davantage les Européens en se concertant avec le Royaume-Uni, avec les Européens, comme c'était demandé par eux pendant longtemps. Et il a fallu attendre 92 pour que les Français acceptent de le faire, et les Britanniques également. Et encore, ils le font avec réticence. Donc, il y a plusieurs moyens de faire agir tous ces plans ensemble, sans supprimer l'un ou l'autre.
Robert Franck,
Yves Roucaud tout à l'heure a donné un élément aussi de réponse. Hein. Dans toute la liste qu'il a faite, il a parlé de la vocation maritime et navale de la France. La France est une puissance navale avec le Royaume-Uni, hein, ce que ne sont pas les autres pays d'Europe. Donc là, voilà la particularité de la France et le poids de la France dans une politique extérieure et de sécurité commune de l'Europe. Elle peut apporter ça. Et qui dit marine dit mer, qui dit mer et océan veut dire justement vocation mondiale. Et cette vocation mondiale est essentielle dans la politique extérieure de la France.
Eh bien, merci beaucoup à tous pour ces réflexions. Robert Franck, La hantise du déclin chez Belin. Merci Yves Roucaud et Delphine Lagrange, vos ouvrages bientôt publiés. Yves Roucaud, je rappelle, éloge du mode de vie à la française. Toutes les références sont sur notre site. On poursuit la réflexion sur le site de France Culture, à la page du Grand Moudre, et également dans La Croix, demain, dans les pages forum que dirige François Hernenweil. Merci beaucoup à tous les quatre. On se retrouve lundi pour une émission au cours de laquelle nous nous demanderons si les luttes, en tout cas pourquoi les luttes environnementales, génèrent de la violence.